les lançant, mais comme caramélisés, sucrés et bizarrement amers à la fois. Un goût qui vous hante longtemps, qui revient par moments dans les sinus et dans l'arrière-gorge au hasard des jours. Si je le convoque maintenant, ce goût, je le retrouve en avalant ma salive, en fermant les yeux, comme je suppose qu'un fumeur doit pouvoir le faire avec l'horrible relent de goudron brûlé du tabac. Bien différent. Car contrairement à ce que je croyais avant d'en faire l'expérience, l'opium ne brûle pas, mais boue, fond, et dégage une vapeur épaisse au contact de la chaleur. C'est sans doute la complexité de la préparation qui préserve les foules européennes de devenir des teriyaki à l'iranienne. Fumer de l'opium est un savoir-faire traditionnel. Un art, disent certains, qui est bien plus lent et complexe que l'injection. D'ailleurs, dans Rohstoff, son roman autobiographique, Jörg Fauser, le Burroughs allemand, décrit les hippies des années 70 à Istanbul, occupés toute la sainte journée à s'injecter sur les lits crasseux des innombrables pensions du Küçük Hagia Sophia Caddesi, de l'opium brut, qu'ils dissolvaient à la va-vite dans tous les liquides possibles, incapables de le fumer efficacement. Dans notre cas, la préparation était à l'iranienne, selon Faugier. J'ai pu vérifier par la suite, en comparant ses gestes à ceux des Iraniens, à quel point ils maîtrisaient le rituel, ce qui était assez mystérieux. Ils ne semblaient pas opiomanes, ou du moins n'avaient aucun des symptômes que l'on associe communément aux drogués, lenteur, maigreur, irascibilité, difficulté de concentration, et pourtant, il était passé maître dans la préparation des pipes. Selon la qualité de la substance qu'il avait sous la main, opium, brut ou fermenté, et le matériel dont il disposait, dans notre cas, un bofour iranien, dont la grosse tête en terre cuite réchauffait doucement dans un petit brasero. Les rideaux soigneusement tirés, comme à présent mes lourds rideaux en tissu d'Alep, rouge et or, aux motifs orientaux épuisés par des années de pauvre lumière viennoise. À Istanbul, il fallait se résoudre à cacher le détroit de nos stores pour ne pas être vu des voisins, mais les risques étaient limités. À Téhéran, on risquait bien plus gros. Le régime avait déclaré la guerre contre la drogue. Les gardiens de la révolution affrontaient dans de véritables batailles rangées les contrebandiers à l'est du pays. Et pour ceux qui auraient douté de la réalité de ce combat, l'avant-veille de Nowruz, le nouvel an iranien, en 2001, alors que je venais d'arriver, les juges de la République islamique ont organisé un spectacle d'une cruauté extraordinaire et diffusé les images à travers la planète entière. L'exécution publique de 5 trafiquants, dont une jeune femme de 30 ans, pendue à des camions grues, les yeux bandés, doucement soulevés dans les airs, la corde au cou, les jambes battant jusqu'à ce que mort s'en suive et que leur pauvre corps pendouille au bout des bras télescopiques. La fille s'appelait Fariba. Elle était vêtue d'un tchador noir. Son vêtement gonflé par la brise faisait d'elle un oiseau terrifiant, un corbeau malheureux qui maudissait les spectateurs de ses ailes. Et on avait plaisir à imaginer que la foule de brutes, des hommes, des femmes, des enfants, qui criait des slogans en regardant s'élever ces pauvres diables vers la mort, allait être frappé par sa malédiction et connaître les souffrances les plus atroces. Ces images m'ont hanté longtemps. Elles avaient au moins le mérite de nous rappeler que, malgré tous les charmes de l'Iran, nous nous trouvions dans un pays maudit, territoire de la douleur et de la mort, où tout, jusqu'au coquelicot, fleur du martyr, était rouge de sang. On s'empressait d'essayer d'oublier tout cela dans la musique et la poésie, parce qu'il faut bien vivre, comme les Iraniens qui sont passés maîtres dans l'art de l'oubli. Les jeunes fumaient de l'opium qu'ils mélangeaient avec du tabac ou prenaient de l'héroïne. Les drogues étaient extraordinairement bon marché, même en monnaie locale. Malgré les efforts